Pour commencer, un petit mot sur les économistes sont-ils écoutés, sont-ils entendus? Souvent, effectivement, quand on parle avec les politiques, on a un grand sentiment de frustration parce qu'ils vous écoutent, mais ils ne mettent pas souvent en œuvre les choses qu'on leur dit. J'ai pas mal d'exemples, mais j'en citerai quelques-uns, notamment sur la question des politiques climatiques et de la taxation environnementale, parce que c'est un domaine sur lequel depuis des années, j'essaie de faire passer un certain nombre de messages, et ces messages ne passent pas très bien. Mais il faut en même temps être extrêmement modeste et puis patient. C'est-à-dire que parfois, des idées qu'on a lancées il y a 10 ou 15 ans finissent par atteindre la surface du débat. Et donc, on est content. Parfois, on est content de voir que certaines choses finissent par prendre corps. Mais souvent, on est déçu, effectivement. Après tout, nous ne sommes pas là non plus pour prendre les décisions. Nous sommes là simplement pour éclairer les décisions. Et on espère au moins pouvoir jouer ce rôle d'une manière aussi efficace que possible. Et ensuite, les décisions politiques relèvent du politique. Bon. Donc, voilà. Mais c'est vrai que sur un certain nombre de questions, et notamment sur les questions environnementales et fiscales, on aimerait souvent que les politiques aillent plus vite, qu'ils prennent un peu plus à bras-le-corps un certain nombre de dossiers. Et on s'aperçoit souvent que les politiques sont un peu timorées sur ces questions. Je citerai juste un exemple assez récent, qui est l'exemple du pacte de compétitivité dont vous avez tous entendu parler, qui était il y a exactement un mois d'ailleurs. Le Premier ministre annonce un pacte de compétitivité avec un crédit d'impôt pour les entreprises d'une vingtaine de milliards, financé en partie par une baisse de dépenses publiques, en partie par ce qu'on a appelé pudiquement un réaménagement de la TVA. Bon, n'ayons pas peur des mots, une hausse de la TVA. Et puis en partie par une taxation environnementale. Et quand j'ai discuté avec le cabinet de Montebourg sur ces questions, ils me disaient: Ah oui, on veut absolument qu'il y ait un volet fiscalité écologique pour financer ça et tout. Je dis: Ah oui, très bonne idée. Mais je dis: problème, il y a deux petits problèmes. D'une part, vous annoncez 3 milliards, ce qui est vraiment rien, hein. Et d'autre part, vous dites 2016. Je dis: mais pourquoi pas 3016 pendant qu'on y est? On n'est pas pressé. C'est pas la peine de. Je veux dire, les changements climatiques, etc., c'est des trucs, au fond, c'est pas la peine de se dépêcher, hein. Alors qu'on va voir quand même qu'il serait temps quand même de bouger sur ces questions-là, et que si on ne le fait pas rapidement, eh bien, ce sera assez largement vain, ou en tout cas, dans une certaine mesure, un peu trop tard. Et plus on attend, c'est des enseignements justement du rapport Stern, plus on attend, plus c'est coûteux, hein, et plus ce sera coûteux. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit, c'est que plus on tardera à prendre des mesures, et plus on sera obligé de faire des choses brutales, et plus ce sera coûteux de s'adapter à ces exigences. Alors, donc, vous allez vous demander pourquoi on a rapproché dans une même conférence la question environnementale et la question de la fiscalité. Et ce que disait Pascal tout à l'heure sur l'économie écologique fournit un peu une réponse à ça. Au fond, l'idée générale que je vais essayer de développer dans cette présentation, c'est que les deux sont très liés et que on peut utiliser justement la fiscalité pour orienter l'économie dans certaines directions. La fiscalité, ça sert finalement à modifier les prix relatifs, les revenus relatifs, les rendements relatifs des différents choix qu'on fait. Et donc, ça peut servir notamment à piloter l'économie dans les directions dans lesquelles on veut aller. Alors, tout le monde sait évidemment que la fiscalité, ça sert aussi, et peut-être surtout à deux autres choses qui sont peut-être plus connues, qui sont d'une part, ça sert à financer les dépenses publiques, et puis ça sert à redistribuer. Bon, mais là, je vais plutôt mettre l'accent sur la troisième finalité de la fiscalité, qui est modifier les prix relatifs. Et en modifiant les prix relatifs, influencer les choix des agents économiques, c'est-à-dire influencer les choix des producteurs, influencer les choix des consommateurs, influencer les choix notamment en matière d'investissement, en matière de choix de résidence, etc., etc. Et donc, l'idée générale de tout ça, c'est que au fond, l'instrument le plus efficace pour essayer d'atteindre les objectifs environnementaux que l'on se fixe, c'est justement la fiscalité, c'est ce que je vais essayer de montrer là-dedans. Alors, pour commencer, alors pourquoi l'Union européenne? Bon, vous savez que l'Union européenne se présente volontiers, et elle est à bien des égards, le leader mondial en matière de politique environnementale. C'est vrai que l'Union européenne a des ambitions beaucoup plus grandes dans ce domaine que la plupart des autres grandes économies. On l'a vu encore ces derniers jours à la conférence sur le climat à Doha, où, comme vous le savez, pratiquement aucune décision n'a été prise. Ce qu'on appelle les grandes économies émergentes, c'est-à-dire notamment la Chine, mais aussi la Russie, etc., sont très hostiles à des engagements contraignants sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Les États-Unis ne veulent pas non plus se lancer là-dedans. Vous savez qu'ils n'ont pas ratifié le fameux protocole de Kyoto, dont je vais reparler tout à l'heure, et qui est le protocole qui est en vigueur actuellement en matière de politique climatique. Et donc, il n'y a guère aujourd'hui que l'Union européenne, plus quelques petites économies. Récemment, l'Australie s'est ralliée un peu à cette politique, mais ça ne fait pas longtemps. Hein. L'Australie n'a une taxe carbone que depuis 6 mois. Enfin, disons, c'est déjà un petit progrès de voir un pays comme l'Australie aller dans cette direction. Inutile de vous dire que des pays comme le Canada, par exemple, qui sont des gros exportateurs d'hydrocarbures et qui vivent, notamment l'Alberta, de ces rentes d'énergie fossile, sont encore moins que les autres prêts à s'engager dans ce genre de processus. Donc il reste l'Union européenne, et l'Union européenne affiche donc des objectifs ambitieux en matière de protection de l'environnement en général. Et ici, j'ai cité un certain nombre de programmes que vous connaissez tous dans le cadre de, par exemple, REACH, qui est la grande directive sur les produits chimiques qui a été adoptée par l'Union européenne depuis quelques années et qui cherche à obliger les industriels qui mettent sur le marché des produits chimiques à faire la preuve de l'innocuité de ces produits avant la mise sur le marché. Alors bon, ça marche pas très bien, mais disons que c'est quand même déjà une démarche assez ambitieuse. Je citais aussi la PAC, la politique agricole commune, dans laquelle de plus en plus, à mesure que les réformes se succèdent, les objectifs environnementaux tiennent une place de plus en plus importante. Donc là aussi, on peut dire qu'il y a des ambitions très importantes. Après, on pourra peut-être, si vous voulez, discuter les modalités. Ça, c'est une autre histoire, mais disons qu'en termes d'objectifs, on affiche des choses très ambitieuses. De la même façon, l'Union européenne est un des seuls pays dans lesquels on impose des quotas de pêche pour préserver les possibilités de renouvellement des espèces, etc. etc. Là aussi, hélas, pas toujours d'une façon aussi rigoureuse qu'il le faudrait. Et puis enfin, en matière climatique, et c'est là-dessus que je vais centrer mon propos aujourd'hui, en matière de politique climatique, l'Union européenne est très en pointe. Et notamment, elle s'est dotée en 2009 de ce qu'on appelle un paquet énergie-climat, c'est-à-dire tout un ensemble d'objectifs très ambitieux, avec notamment ce fameux objectif qui s'appelle 20-20-20 pour 2020, c'est-à-dire l'idée qu'à l'horizon 2020, l'Union européenne cherche à réduire de 20% sa consommation d'énergie, d'une part, c'est le premier 20. Le deuxième 20, c'est réduire de 20% l'intensité énergétique de la production. On verra ce que c'est tout à l'heure. Et le troisième 20, c'est que les énergies renouvelables représentent au moins 20% des énergies consommées dans l'Union européenne, toujours à l'horizon 2020. Donc on a des objectifs assez ambitieux, des objectifs chiffrés, qui sont à échéance pas très éloigné, puisque nous sommes déjà presque en 2013, c'est-à-dire tout ça, c'est dans 7 ans. Hein. Voilà. De plus, l'Union européenne a toujours eu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, des positions très en pointe dans les négociations climatiques internationales. Elle avait eu notamment une position en pointe lors de la fameuse conférence de Copenhague en 2009, vous vous en souvenez peut-être, décembre 2009, où tous les pays du monde s'étaient retrouvés pour essayer de négocier une suite à ce fameux protocole de Kyoto. de façon assez désastreuse, il faut bien le dire. Et puis depuis, donc, à toutes les conférences sur le climat, il y en a une chaque année pratiquement depuis. Et la dernière en date s'achève aujourd'hui, ou s'est achevée ce week-end, ou s'achève aujourd'hui à Doha, sans accord ou avec une espèce d'accord qui n'en est pas un, qui a été passé au forcing à la dernière, dans les dernières heures de la nuit, etc., etc. Et donc rien, en gros. Rien au niveau international, mais l'Union européenne, de manière unilatérale, continue à s'imposer à elle-même un certain nombre d'objectifs qu'elle aurait voulu en fait étendre à l'ensemble des pays développés, mais que ça n'a pas été possible. Bon, donc tout cet ensemble d'exemples montre finalement l'ambition de l'Union européenne en matière environnementale et notamment en matière climatique. Alors, pourquoi la politique climatique ? Bah, pour deux raisons. La première raison, c'est que finalement, ça constitue une bonne illustration de la manière dont les économistes peuvent éclairer les choix des décideurs publics et peuvent promouvoir l'utilisation d'un certain nombre d'instruments. C'est ce que je vais essayer de montrer. Donc ça, c'est la première raison. Et là-dessus... un ouvrage que Pascal aurait pu citer, qui n'est pas de moi, mais qui est de certains de ses anciens étudiants, notamment, c'est la revue qui s'appelle « Regards croisés sur l'économie ». Et c'est une très bonne revue que je conseille à tout le monde. Et en 2009, cette revue « Regards croisés sur l'économie », l'automne 2009, a publié un numéro sur les politiques climatiques. Et j'ai adoré le titre de cette revue, de ce numéro, c'était « Les économistes peuvent-ils sauver la planète ?» Et je vais essayer de vous convaincre que oui. Bon, vous n'allez peut-être pas me croire, mais je vais essayer de vous convaincre que oui. Oui, les économistes peuvent sauver la planète. Ils peuvent contribuer en tout cas à la sauver. J'espère pouvoir vous le montrer, mais à condition qu'on soit un peu écoutés, justement. Ça, c'est une autre question un petit peu plus compliquée à laquelle je n'ai pas toutes les réponses. Bon, donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi la politique climatique comme, illustration des politiques environnementales. La deuxième raison, c'est qu'évidemment, c'est quelque chose de massif, c'est quelque chose d'urgent, et c'est quelque chose sur lequel on peut agir d'une manière, avec les outils de l'analyse économique. Il y a des domaines dans lesquels c'est moins simple, on va dire. On voit par exemple que des questions comme la biodiversité, etc., sont des choses extrêmement complexes que les scientifiques eux-mêmes ont du mal à appréhender, les économistes a fortiori, encore plus. Dans le cas du climat, si vous voulez, ce qui fait la simplicité de la chose, sa complexité en même temps, c'est que ça dépend des gaz à effet de serre. Donc, la question revient au fond à la question des émissions de gaz à effet de serre, de la manière dont on peut influer sur ces émissions. Et c'est là-dessus que les économistes peuvent dire des choses, on va dire, assez simple, je vais essayer de vous montrer comment. Et puis, la question climatique, évidemment, vous savez tous qu'aujourd'hui, il y a évidemment toujours des controverses, et je ne vais pas rentrer dans les controverses scientifiques pour savoir qui a raison, qui a tort. Je vais partir de l'hypothèse que le GIEC et les gens qui pensent que le changement climatique est largement influencé par les activités humaines, ces gens-là ont raison. Alors évidemment, si vous pensez que ces gens-là ont tort, tout ce que je vais dire par la suite va vous paraître un peu charlatanesque. Bon, voilà. Donc ça, c'est mon hypothèse de départ. Je ne suis pas météorologue, je ne suis pas non plus spécialiste des sciences de la Terre, de la géophysique, etc., etc. Donc, bon, je prends ce que les scientifiques des autres sciences nous donnent et je m'en sers comme point de départ pour mon analyse. Et ce que nous disent, au fond, les climatologues, les gens du GIEC, etc., c'est que, donc, en gros, le changement climatique est fortement, on va dire, fortement influencé par l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que cette accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est en très grande partie le fruit des activités humaines, et plus particulièrement de l'usage par les humains des énergies fossiles qui sont donc du carbone. En gros, si on veut dire les choses d'une manière extrêmement simpliste, on pourrait dire, eh bien, les énergies fossiles, c'est du carbone qui a été emprisonné dans la croûte terrestre depuis des millénaires. On extrait ce carbone de la croûte terrestre pour produire de l'énergie. Et dans le processus par lequel on produit de l'énergie avec ces énergies fossiles, on transforme ce carbone fossile en oxyde et dioxyde de carbone, qui sont des gaz qui s'accumulent dans la haute atmosphère et qui produisent ce fameux effet de serre. Hein. Donc, en gros, c'est ça. Et ce processus, donc, on peut dire qu'évidemment, il a commencé depuis qu'il y a de la vie sur la Terre, bien sûr, sauf que il s'est passé quelque chose de tout à fait essentiel il y a un peu plus de 2 siècles, c'est la révolution industrielle. Et depuis la révolution industrielle, eh bien, les humains ont fait un recours croissant aux énergies fossiles comme source principale d'énergie. Et comme on utilise de plus en plus d'énergie et qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre, eh bien, on a une espèce d'envolée plus ou moins exponentielle de nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Hein. Donc, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que, au fond, il y a un point de rupture. Certains scientifiques parlent de l'anthropocène pour caractériser cette nouvelle ère géologique qui s'ouvre avec la révolution industrielle et qui est caractérisée par un usage de plus en plus massif des énergies fossiles et donc par une influence de plus en plus marquée des humains sur l'environnement global de la planète. Au fond, c'est ça l'idée de base. Et pour bien comprendre ça, il faut juste rappeler qu'avant la révolution industrielle, eh bien, en gros, l'humanité n'a jamais utilisé massivement d'énergie fossile. Elle n'a toujours utilisé que des énergies renouvelables. Et donc, il y a bien là une rupture. On va voir que cette rupture est assez visible. Bon. Donc ça, c'est la chose importante. Et alors, du coup, aussi, sur les horizons temporels, quand même dire un mot, ce que nous disent les scientifiques, les spécialistes du climat, etc., c'est que ça bouge vite. Que le changement climatique est même plus rapide que ce qu'on imaginait lorsque le précédent rapport du GIEC a été écrit, c'est-à-dire en 2006. Et aujourd'hui, la plupart des gens pensent que si on continue sur la trajectoire actuelle, on devrait atteindre une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre supérieure à 2 degrés à la fin du siècle, et probablement plutôt autour de 3 ou 4 à la fin de ce siècle. Ce qui veut dire que déjà à l'horizon 2050, et même avant sur certaines manifestations, mais en tout cas à l'horizon 2050, ces choses-là seront extrêmement sensibles. Hein. Et 2050, c'est dans pas longtemps. Hein. 2050, c'est dans 37 ans. Hein. Donc, dans 37 ans, beaucoup d'entre nous ne seront plus là, mais à commencer par moi. Mais nos enfants, nos étudiants, eh bien, ils seront encore là, pour la plupart. Donc, quand on dit les générations futures, ce n'est pas tellement les générations futures, c'est plutôt les générations présentes déjà qui sont concernées. Hein. Moi, je dis toujours à mes étudiants, en 2050, dans 37 ans, vous aurez exactement l'âge que j'ai aujourd'hui. Hein. Et évidemment, quand vous me regardez aujourd'hui, vous pensez que je suis vieux. Et vous n'avez pas tort. Sauf que quand vous aurez cet âge-là, vous ne penserez pas que vous êtes vieux. Donc, parce que moi, quand j'étais étudiant, c'est pareil. Je pensais qu'un prof de 58 ans, c'était un vieux. Bon, et tout le monde est pareil, bien sûr. Mais... évidemment, quand on vieillit soi-même, on se rend compte que on n'est pas si vieux que ça à cet âge-là et puis qu'on a encore pas mal d'années devant soi. Et eux, peut-être, en auront-ils encore plus que nous, avec l'allongement de l'espérance de vie. Donc, ça veut dire que vraiment, ça les concerne au premier chef et pas seulement les générations futures. Alors, le mais ici, c'est de dire que finalement, l'Union européenne est très ambitieuse en matière de politique climatique, comme elle l'est dans d'autres domaines de protection de l'environnement, mais qu'elle ne se dote pas des bons instruments. Elle ne se donne pas les moyens d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Et c'est ce que je vais essayer de montrer. Pour l'instant, elle a une performance qui n'est pas trop mauvaise, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, qui est très largement en trompe-l'œil, qui fait qu'on se donne bonne conscience, mais qu'on ne va pas assez loin dans la mobilisation des instruments qu'on pourrait utiliser. Alors, pourquoi lier donc l'environnement et la fiscalité ? Pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la question des prix, en fait. C'est la question des prix qui est centrale. Au fond, ce que dit l'analyse économique en général, c'est que les gens prennent leurs décisions, font leurs choix économiques sur la base de calculs plus ou moins explicites qui sont des calculs fondés sur les prix. Et donc, que les prix servent d'incitation, les prix servent de signaux, Et l'idée générale, c'est que quand quelque chose est plus cher, on a tendance à l'économiser. Quand c'est moins cher, on a tendance à la gaspiller. Et que, en termes de rentabilité, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont les prix relatifs qui vont déterminer ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est ça qui va aussi inciter les industriels à faire des choix d'investissement, par exemple, et les ménages aussi à faire des choix d'investissement résidentiel, d'investissement en matière de chauffage, d'isolation thermique des logements, de déplacement, etc., etc. Donc, c'est au fond l'idée de base de cet exposé, c'est que les prix sont la variable importante pour orienter les choix économiques et que la fiscalité, c'est la meilleure manière d'agir sur les prix. Donc, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'agir sur les prix? Eh bien, parce qu'on va le voir, on est dans un domaine où on a ce que les économistes appellent des défaillances de marché, c'est-à-dire que les marchés ne prennent pas en compte certaines dimensions essentielles des choix économiques des agents individuels, notamment des consommateurs et des producteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle en économie les externalités ou les effets externes, c'est-à-dire, par exemple, quand vous prenez votre voiture, vous tenez compte du coût de l'essence et de l'utilisation de votre voiture, vous tenez compte du bénéfice que vous procure le fait de pouvoir vous déplacer d'un point à un autre en voiture, mais vous ne prenez pas en compte la pollution que subissent tous les autres du fait de votre usage de la voiture. Ça, c'est l'idée de ce qu'on appelle une externalité. Et donc, cette partie-là n'est pas prise en compte. Et on verra que c'est ça qui fait que les marchés ne donnent pas les bons signaux. Et que donc, on doit corriger les signaux de marché. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste illustrer ça par des éléments que j'ai pris dans l'actualité française de ces derniers jours. La question de la compétitivité, dont on a beaucoup parlé, j'en parlais tout à l'heure. La question de la rentabilité des projets d'énergie renouvelable. On nous dit, on lit des articles tous les jours qui nous disent l'énergie solaire, c'est pas rentable, ça, c'est trop cher. L'énergie éolienne, c'est trop cher, c'est pas rentable, ça ne peut pas concurrencer. À l'inverse, on nous dit, regardez, les États-Unis sont en train de se réindustrialiser parce qu'ils ont choisi d'exploiter les gaz de schiste et que donc ils ont à nouveau une énergie bon marché, etc., etc. Et puis, plus récemment encore, on nous a parlé de ce fameux projet Ulcos qui a failli et pas failli et qui était là, puis pas là, une espèce d'arlésienne, un jour oui, un jour non, un jour oui. Ce Ulcos, comme vous le savez, peut-être, c'est le fameux ultra low carbon, etc., etc. Donc, c'est un projet expérimental qui vise à développer un procédé de capture du carbone, du gaz carbonique sur les aciéries. De façon justement à diminuer les rejets de gaz à effet de serre qui sont produits par la production d'acier traditionnelle. Et c'est un projet expérimental parce que pour l'instant, personne ne maîtrise complètement cette technologie, d'une part. Et puis d'autre part, c'est un projet sur lequel les industriels hésitent beaucoup. On a vu justement M. Mittal dire « Ah ben non, finalement, je ne le présente pas cette année, mais oui, je le présenterai l'année prochaine, je remets 13 millions, mais je ne veux pas mettre plus pour l'instant parce que je ne sais pas, etc. » Parce que tout le monde se demande si ce truc va être rentable un jour ou pas. Alors, d'une part, il y a des incertitudes technologiques sur est-ce qu'on est capable de le faire, est-ce que ça n'a pas des effets insoupçonnés sur, par exemple, les nappes phréatiques ou des choses comme ça, parce qu'on réinjecte le carbone, le gaz carbonique sous terre. Peut-être on va finir par avoir des sources Perrier dans toute la France avec de l'eau à bulles partout, mais ça, ce serait le meilleur des cas. Ça pourrait aussi être des choses moins sympathiques comme une acidification ou des choses comme ça. Donc, bon. Mais, donc, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas complètement, d'une part, et puis d'autre part, il y a la question de est-ce que ça sera rentable, parce que c'est coûteux, évidemment. C'est très coûteux. Si on doit recapter le gaz carbonique qui sort des cheminées d'usine pour le pressuriser, le liquéfier, le transporter, le stocker dans des aquifères ou dans des mines de sel ou des choses comme ça, bon, c'est pas anodin, évidemment. Ça renchérit beaucoup les procédés industriels. Alors, et de la même façon, on a les mêmes problèmes, par exemple, pour le charbon. Pour le ciment. Les cimenteries sont aussi des choses qui émettent énormément de gaz à effet de serre, etc., etc. Donc, Cette question de la rentabilité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça dépend des prix, tout simplement. Hein. C'est absolument pas sorcier, c'est pas magique du tout. C'est-à-dire, si le prix des énergies fossiles montait à, par exemple, 200 dollars le baril de pétrole, ou si on mettait un prix du carbone suffisamment élevé, eh bien, ce projet-là serait rentable. Pourquoi il n'est pas rentable? Parce qu'en ce moment, comme je vais vous le montrer, le prix des énergies fossiles est trop bas. Ça peut paraître un peu provocateur, ce que je vous dis là, mais j'ai essayé de vous démontrer. Et d'autre part, que le prix du carbone en Europe est beaucoup trop bas. Actuellement, on va voir que sur ce qu'on appelle le marché du carbone, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Sur le marché du carbone, actuellement, la tonne de carbone s'échange en Europe à moins de 6 euros la tonne. Or, toutes les études qui ont été faites justement sur la capture de carbone, sur ce genre de technologie, montrent que ça ne peut commencer à être rentable que si la tonne de carbone atteint, disons, 60 euros la tonne, c'est-à-dire 10 fois le niveau actuel. Donc, toute l'histoire de Florange et toutes sortes d'autres histoires qu'on entend en ce moment, eh bien, d'une certaine manière, elles dépendent de ça. C'est-à-dire, quel choix va-t-on faire sur la politique climatique? Est-ce qu'on va finalement s'engager dans des choix courageux pour inciter à la transition vers ce qu'on appelle une économie bas carbone, hein, et dans ce cas-là, se donner les moyens d'y aller, ce qui va rendre rentable certaines choses et rendre non rentable certaines autres, hein, donc qui va obliger à déclasser toute une partie du capital qu'on a et le remplacer par des nouveaux investissements, mais en même temps va favoriser justement l'émergence de nouvelles technologies, qui actuellement ne sont pas rentables, mais qui le deviendront si les prix relatifs de l'énergie changent. Et c'est ça, en fait, l'idée, tout simplement, qui est derrière toute mon analyse ici. Alors, juste un petit point d'histoire, avant d'aller plus loin, quand même, si vous avez des questions ou des contestations, n'hésitez pas à les poser, parce que je suis très bavard, posez-les, quand même, hein, posez-les. Alors, un petit point d'histoire, quand même, oui.
Le GIEC a dit des choses concernant, évidemment, le réchauffement climatique, mais à ma connaissance, il n'a pas prouvé que ce réchauffement climatique pouvait présenter des dangers majeurs pour l'humanité.
Non, mais... Oui. On ne sait pas. C'est pour ça que je suis d'accord. Alors là-dessus, je suis d'accord avec vous, mais simplement, moi, si vous voulez, je pars du principe qu'il y en a. Je pense qu'il y a aujourd'hui, par exemple, une majorité de climatologues qui considèrent que le réchauffement climatique engendre une fréquence beaucoup plus grande et une violence beaucoup plus grande de ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire les tempêtes, les trucs, les sécheresses, etc. Il y a quand même un certain nombre d'indices ces dernières années. Par exemple, il y a plusieurs études de la Banque mondiale et de l'assureur privé Munich Re qui montrent que la fréquence et le coût des événements climatiques extrêmes s'est beaucoup accru ces deux dernières décennies et que, notamment, elle frappe particulièrement l'Amérique du Nord. Hein. Si vous regardez la courbe des dégâts climatiques en Amérique du Nord, vous apercevez qu'il y a très clairement quelque chose. Alors maintenant, je vous dis, moi je ne vais pas rentrer dans les controverses météorologiques, ce n'est pas mon domaine, donc je ne suis pas compétent pour dire ça. Simplement, ce que disent les économistes comme Stern ou autres, c'est que les conséquences économiques existent, et que plus on attendra, et il y en a déjà, comme par exemple, je veux dire, si vous regardez par exemple des choses comme très simples, hein, par exemple le vin. Hein, vous savez que on est obligé de mettre des retardateurs de fermentation dans la plupart des régions, par exemple dans le Bordelais, etc., parce que le taux d'alcool des Bordeaux a augmenté de plus de 1 degré en moyenne au cours des 20 dernières années. Donc, ça veut dire que les vins sont de plus en plus alcooliques. Les vendanges sont de plus en plus précoces. On est obligé de déplacer les vignobles là où il y a des pentes, de plus en plus haut sur les pentes, parce que le climat, justement, fait que plus bas, c'est trop chaud, etc., etc. Donc, il y a quand même pas mal de signes qui nous montrent qu'il se passe des choses. Alors maintenant, que ces choses soient très coûteuses, peu coûteuses, etc., c'est très difficile à dire, parce que pour l'instant, on n'a pas effectivement... notamment une cartographie de ce que donneront ces modifications climatiques à l'échelle, disons, locale, etc., etc., sur les différentes régions du monde. Mais il y a quand même déjà un certain nombre de signes qui nous montrent que ça a des coûts et que ça aura des coûts sûrement encore plus importants si ça monte de façon sensible. l'augmentation du niveau des océans, etc., tout ça a quand même des coûts assez importants. Et tout ça, c'est des choses qu'on commence à mesurer. Je veux dire, par exemple, le recul de la ligne de littoral et le fait que dans un certain nombre de régions, la mer gagne sur les côtes, etc. Bon, enfin bon, je ne vais pas rentrer de toute façon dans ces questions-là. Moi, je vais faire l'hypothèse que oui, ça a des coûts. Hein. Mais ce n'est pas vraiment mon domaine là-dessus. Il va y avoir un nouveau rapport du GIEC l'année prochaine, en principe, qui devrait mettre à jour un certain nombre de connaissances sur ces questions. Alors, juste une petite illustration historique pour vous montrer l'importance des coûts relatifs en matière d'énergie. C'est une thèse, hein, ça n'est qu'une thèse, et donc, évidemment, toujours discutée. La question, c'est pourquoi la révolution industrielle a-t-elle eu lieu en Angleterre, et pourquoi à ce moment-là ? C'est quand même une question intéressante, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, jusqu'alors, l'humanité avait toujours utilisé des énergies renouvelables, toutes sortes, les animaux, d'abord l'énergie physique des humains eux-mêmes, et puis les animaux domestiques, et puis l'eau, et puis le vent, les moulins à eau, les moulins à vent, etc. etc. Et le bois, évidemment, hein, le bois. Pourquoi en Angleterre, au XVIIIe siècle, tout d'un coup, se mettons à exploiter une énergie fossile qu'on connaissait depuis longtemps, hein, parce qu'évidemment, le charbon, ça faisait longtemps qu'on savait que ça existait. Et le pétrole aussi. Hein. Si vous lisez les histoires de l'Antiquité, etc., vous savez très bien qu'en Arabie Saoudite, on trouvait des sources de bitume et que les gens, les Égyptiens, déjà d'il y a 4000 ans ou 5000 ans, savaient déjà que ça existait. Et pourtant, ils ne l'utilisaient pas. Hein. Et la question, c'est pourquoi on se met à utiliser des choses qu'on n'utilisait pas avant, hein. Donc, c'est la question des technologies. Pourquoi certaines technologies apparaissent et pourquoi surtout sont-elles massivement adoptées et pourquoi se répandent-elles? Et ce que nous dit un historien de l'économie qui s'appelle Pomeranz, c'est la thèse suivante. Il dit, eh bien, en Angleterre, au 17e et 18, fin 17e, début 18e, le bois devient très cher. Le bois devient très cher parce que c'est une île, parce qu'elle est de plus en plus peuplée et parce que le bois, on l'utilise pour tout. On l'utilise pour les bateaux, on l'utilise pour la construction des maisons, on l'utilise pour le chauffage, on l'utilise comme principale source d'énergie, etc., etc. Et donc, on a un problème, le prix relatif du bois se met à monter, et du coup, il devient intéressant d'essayer de trouver un substitut au bois pour les usages pour lesquels on peut le substituer. Et c'est à ce moment-là que, justement, on se penche vers le charbon, qui apparaît comme un bon substitut. Et là, évidemment, il y a un coup de chance, ou un coup de génie, si vous voulez. C'est Watt, quoi. Watt, c'est le mec qui arrive à transformer la machine à vapeur en quelque chose qui fait tourner une roue. Hein. Et ça, c'est évidemment très génial, bien sûr. Mais et le coup de chance, c'est évidemment que cette machine-là, la machine à vapeur, qui consomme du charbon, elle résout aussi le principal problème que pose l'exploitation des mines de charbon, c'est-à-dire l'accumulation d'eau dans les mines. C'est-à-dire, avec cette machine, on peut pomper l'eau. Hein. Et donc, voilà. On a une espèce d'enchaînement vertueux. Cette intuition-là, si vous voulez, c'est la même que celle que je voudrais développer pour les politiques climatiques. C'est l'idée que si on change les prix relatifs, on favorise l'émergence de certaines technologies et on favorise le développement et l'adoption de certaines technologies qui deviennent rentables. C'est ça l'idée. Hein. Alors, bon, je vais aller vite sur la première question qui est problème mondial. Ensuite, les difficultés de l'action collective et puis surtout les trois autres points, c'est-à-dire la stratégie environnementale de l'Union, ce que j'appelle Bruxelles-Copenhague, c'est-à-dire en fait 2009, la manière dont on s'est mis d'accord en Europe sur une stratégie énergie-climat et la manière dont on a essayé de promouvoir ça à l'échelle mondiale, et puis l'échec de Copenhague, et puis ensuite donc essayer de s'interroger brièvement sur l'après Doha, puisque c'était ce week-end, donc la fin de la conférence de Doha. Et comme vous le savez, je pense, la France s'est portée candidate pour accueillir la prochaine grande conférence climatique qui devrait se tenir en 2015, c'est-à-dire dans un peu moins de 3 ans. Et donc, tout le monde espère que d'ici là, on aura réussi, mais pour l'instant, à se mettre d'accord, mais pour l'instant, ça, c'est loin d'être le cas. Alors, donc, je vais aller vite sur les, sur les données, etc., puisque, encore une fois, ce n'est pas mon domaine, c'est juste pour donner l'arrière-plan. Simplement, je voulais quand même rappeler une question générale à laquelle les économistes se sont heurtés depuis l'origine et qu'on avait un peu oublié. Et tout à l'heure, justement, Pascal, dans l'introduction, quand il vous faisait voter sur les différents thèmes, parlait de l'économie immatérielle. Et ce terme me frappe beaucoup parce que jamais rien n'a été aussi faux comme terme que l'adjectif immatériel pour caractériser les économies dans lesquelles nous sommes. Parce que ce qu'on appelle les économies de la connaissance repose en fait sur l'usage de technologies qui sont épouvantablement consommatrices de ressources naturelles, en fait. Il n'y a rien de moins immatériel que ce que nous faisons en ce moment en utilisant des ordinateurs, des téléphones portables, etc., qui utilisent des terres rares pour leur production, qui utilisent des métaux rares pour leur production, qui utilisent énormément d'énergie pour stocker les données, pour transférer les données, etc. Et l'illusion qu'on a pu avoir il y a 10 ou 15 ans, justement, qu'on passait vers une nouvelle économie qui était immatérielle et qui donc n'avait pas tellement d'impact sur l'environnement, cette illusion-là, à mon avis, est très fausse. En fait, on a plus d'impact que jamais sur notre environnement, même dans cette économie reposant sur la connaissance, parce qu'elle mobilise des outils qui, eux-mêmes, sont très consommateurs de ressources naturelles. Par exemple, je vous dis, les téléphones portables, on en change tous les 6 mois, la fabrication d'un téléphone portable ou d'une puce électronique demande des quantités d'eau, des quantités de silicium, etc., etc. Enfin, toutes sortes de choses qui ne sont pas très bonnes. Et alors, c'est intéressant parce que, du coup, ce qui revient, c'est une vieille interrogation des économistes qui était finalement l'interrogation de Malthus. Vous savez tous que, à la fin du 18e, Malthus publie un essai qui est vraiment... qui aura une influence énorme, hein, puisque cet essai va influencer Darwin. C'est grâce à... Darwin dit dans ses travaux que c'est grâce à la lecture de Malthus qu'il s'interroge sur la question de l'évolution, etc. Donc Malthus, vraiment, et encore aujourd'hui, l'adjectif malthusien est évidemment dans toutes les langues, et il désigne partout à peu près la même chose. Et Malthus a eu une intuition qui s'est révélée fausse dans une certaine mesure, mais qui est quand même très intéressante. Ce que dit Malthus, c'est qu'on a un problème, parce que les humains, disons, la croissance démographique est plus rapide que l'accroissement des ressources sur lesquelles vit la population. Hein. Et Malthus a l'idée que ce qu'il appelle le grand banquet de la nature, c'est en fait limité, que les ressources naturelles sont limitées sur la planète, et que donc, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde au grand banquet de la nature. C'est-à-dire, à un moment, ça va coincer. Ça va coincer parce que, à mesure qu'on s'enrichit, on se reproduit. À mesure qu'on se multiplie, on exerce une pression de plus en plus forte sur les ressources naturelles de la planète. Et il va arriver un moment où ça va coincer. Et donc, Malthus a dans l'idée qu'on va retomber dans une espèce de paupérisation parce qu'il n'y aura pas assez. Il y a une espèce de régulation naturelle, finalement, de la population mondiale. Or, vous savez qu'aujourd'hui, on est un peu plus de 7 milliards, qu'en 2050, on sera entre 9 et 10 milliards sur Terre. Bon, et quand Malthus a écrit son essai, il ne le savait pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de statistiques pour le lui dire, mais s'il y avait eu des statistiques, il aurait su qu'il y avait seulement 1 milliard de personnes sur Terre. Et donc, là où je dis qu'il a eu tort, c'est que finalement, on est passé de 1 milliard à 7 milliards, je dirais sans trop de problèmes jusqu'à maintenant. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais il n'y en a pas non plus autant que ce qu'il prévoyait, en tout cas. On a réussi à peu près à nourrir tout le monde. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, disons, entre 800 millions et 1 milliard de gens qui ne mangent pas leur faim. C'est le même nombre qu'il y a 60 ans. C'est-à-dire, en termes relatifs, la part de la population mondiale qui ne mange pas à sa faim ne cesse de diminuer. C'est-à-dire, il y en a moins en termes relatifs qu'il y a 50 ans. Donc, et il y a plus de gens qui gaspillent qu'il y a 50 ans. Donc, pour l'instant, on peut dire que Malthus a eu tort. Mais la question intéressante, c'est pourquoi il a eu tort et pourquoi il pourrait avoir raison. Alors, pourquoi il a eu tort? Ben parce qu'il avait complètement négligé quelque chose qui, au contraire, a inspiré Darwin, c'est que l'homme est un animal qui s'adapte à son environnement, qui est capable d'innovation, qui est capable de modifier ses modes de production, etc., etc., et qu'on n'est pas comme un troupeau de chevreuils dans un espace limité, c'est-à-dire on change, hein, et on réagit justement aux raretés. Hein. On invente des trucs pour résoudre nos problèmes de rareté, ce que, apparemment, les autres espèces animales ne font pas, ou en tout cas pas aussi bien que nous. Hein. Et donc, c'est ça l'idée. C'est au fond, c'est pour ça que j'ai dit Malthus contre Ricardo, parce que finalement, Ricardo, qui arrive 20 ans à peu près après Malthus, très influencé lui aussi par la lecture de Malthus, Ricardo donne des réponses assez intéressantes. Il croit en même temps ce que dit Malthus. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que Ricardo ne se rend pas compte que ce qu'il dit va nous donner les solutions à ses problèmes. Lui, il pense que Malthus a raison, au fond, hein, et que donc la croissance va s'arrêter. Et ces questions-là sont étonnamment modernes et actuelles, parce que ça débouche sur la question de la décroissance et tout ce qu'on entend sur l'arrêt de la croissance, le fait que c'est fini, qu'on ne peut plus continuer, etc. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que si, on peut essayer, on peut continuer. Hein, et que la décroissance, c'est probablement la plus mauvaise manière de répondre à ces problèmes-là. Mais c'est finalement pas loin de ce que pensait, par exemple, Ricardo. Ricardo pensait qu'on allait aller vers un état stationnaire, qu'à un moment, la croissance allait s'arrêter parce que, justement, les ressources naturelles allaient être le facteur limitant. Mais Ricardo était quand même optimiste, il pensait que c'était dans longtemps, et il pensait qu'entre-temps, il y avait deux mécanismes qui allaient nous permettre d'échapper, au fond, à cette malédiction de la rareté. Le premier, c'est le commerce international. Donc Ricardo disait, si on fait du commerce avec d'autres régions du monde qui n'ont pas les mêmes ressources, etc., on va pouvoir relâcher un peu la contrainte de la rareté. Et ça a été vrai pendant deux siècles, hein, mais aujourd'hui, on peut dire, ça y est, la Terre entière est incluse dans le commerce international, donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on atteint les limites de ça. À moins évidemment d'aller sur la Lune ou sur Mars, hein, en quel cas on pourra recommencer à une échelle un peu plus grande, mais disons que tant qu'on reste sur notre planète, voilà, on est à peu près au bout de tout ça. Et donc l'autre mécanisme que Ricardo met en avant, c'est le progrès technique. Ricardo dit, si on trouve des meilleures manières d'utiliser les ressources naturelles, plus efficaces, plus économes, eh bien on va pouvoir repousser les limites de la rareté. Et c'est là-dessus, justement, que je vais insister maintenant. Alors, ça, c'est les courbes que vous connaissez tous, qui sont les courbes du GIEC, qui mettent en parallèle les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'élévation de la température moyenne à la surface du globe. Bon, et puis, l'autre donnée sur laquelle je voulais insister, c'est le fait que, évidemment, ce qui rend les négociations internationales si compliquées sur ces questions, c'est qu'on a à la fois ce qu'on appelle une responsabilité historique et puis un problème futur. Hein. Sur le passé, en gros, pour être simple, sur le passé, c'est nous, pays riches, qui sommes responsables de tout. Sur l'avenir, c'est les émergents et les pays en développement qui sont la plus grosse menace. Et donc, on a un problème qui est que eux, évidemment, nous disent, mais c'est vous qui avez fait tous les dégâts, et maintenant, vous nous demandez à nous de faire les efforts. Hein. Et donc, ça, c'est la grosse difficulté dans les négociations internationales, à Doha et ailleurs, notamment avec les Chinois, qui nous disent, oui, on le fera, mais quand on sera plus riche, comme vous. Bon, sauf qu'évidemment, les Chinois émettent tellement de gaz à effet de serre aujourd'hui, c'est les premiers émetteurs mondiaux, très loin devant nous, évidemment, mais même loin devant les États-Unis. Et donc, si on n'arrive pas à avoir les Chinois dans un accord, on va voir que si l'Union européenne fait ça toute seule, ça représente l'Union européenne, en gros, c'est un peu plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Et donc, si on fait un effort très sensible, ça ne se verra pas beaucoup s'il n'y en a pas d'autres qui nous suivent là-dedans. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce n'est pas simple. Et vous voyez qu'en fait, les pays non OCDE aujourd'hui et dans les années à venir sont et seront les principaux émetteurs. Et si on regarde justement les évolutions récentes, ce qui est assez inquiétant, c'est que d'une part, à l'échelle globale, c'est le graphique de ce côté, on voit que les émissions de gaz à effet de serre se sont accélérées, hein, et non pas ralenties, mais accélérées, c'est-à-dire que dans la décennie 90, c'était en moyenne 1% par an de croissance des émissions. Dans la décennie 2000, c'est 3,4, presque 3,5% par an de croissance, et donc plus que triplé le rythme des émissions. Et ça, c'est dû en très large part aux pays en développement et aux pays émergents, et notamment donc aux grandes économies émergentes que sont donc la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, etc. Et qu'au contraire, donc, les pays développés, c'est la courbe plate noire dans la deuxième partie du graphique, ont plus ou moins stabilisé depuis au moins deux décennies. C'est vrai d'ailleurs aussi pour les États-Unis, globalement, disons, une espèce de stabilisation, en tout cas pas une croissance aussi rapide. Les États-Unis croissent, ont des émissions croissantes, l'Union européenne légèrement décroissante, et donc en tout, disons que les pays développés, c'est à peu près stable. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, les pays développés ne représentent plus qu'environ 45% des émissions totales, et les pays émergents et en développement, 55%, et donc c'est chez eux, évidemment, que se passe l'essentiel de l'action. Alors, juste un mot sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, comme vous le savez, on a adopté un protocole qu'on appelle le protocole de Kyoto, qui a été adopté en 1997, qui expire à la fin de ce mois. Hein, donc, ça y est, c'est la fin. L'Union européenne s'est engagée unilatéralement à prolonger l'accord de Kyoto jusqu'à 2020. Mais pour l'instant, c'est à peu près la seule région du monde à l'avoir fait. Et pour l'instant, l'Union européenne est la seule à avoir mis en œuvre le protocole de Kyoto. En fait, le protocole de Kyoto avait été signé par les États-Unis et par plusieurs pays développés, mais les États-Unis ne l'ont jamais ratifié et d'autres pays développés l'ont dénoncé, comme par exemple le Canada, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a que l'Union européenne. Alors, ce que dit ce protocole de Kyoto, c'est que on s'engage, nous, pays développés, nous nous engageons à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 8% par rapport à une année de référence qui est l'année 1990. Alors, ce que je dis là est important parce qu'on va voir que la réduction qu'on a opérée en Europe est une réduction assez largement en trompe-l'œil parce que, justement, notamment, cette année de référence qui était l'année 90 est une année extrêmement atypique. Et donc, c'est en gros le pic des émissions en Europe, et du coup réduire par rapport à cette année-là, ça a été particulièrement facile pour nous. Alors, si on regarde les performances d'un certain nombre de pays, là, j'ai ici les données jusqu'en 2005, et on voit que, donc avant la crise de 2008-2009, on voit que, en fait, beaucoup de pays avaient augmenté leurs émissions et n'ont pas réduit par rapport à l'année 90, qui est donc l'année de référence, à l'exception donc de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, et puis la Russie. Alors là, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, parce que bon, le Royaume-Uni a pas mal réduit, mais là, c'est parce qu'ils ont à peu abandonné le charbon pour se tourner vers d'autres énergies. Si on regarde maintenant les autres pays, bon, on a la France qui a une performance pas trop mauvaise, moins 1,6% par rapport à 90, c'est pas non plus grandiose, mais disons qu'elle a moins le bon signe, ça réduit. Mais les autres, l'Allemagne et la Russie, qui font en fait, et vous voyez que l'Union a 15 à peu près en moyenne la même performance que la France. Mais c'est dû en grande partie à l'Allemagne. Et quand on compare l'Allemagne à la Russie, on se dit, tiens, il s'est passé dans ces deux pays-là quelque chose de comparable, même si ce n'est pas la même ampleur. Et qu'est-ce que c'est? C'est la fin de l'Union soviétique. 90, c'est la dernière année d'existence de l'Union soviétique. Et donc, c'est la dernière année au cours de laquelle a fonctionné dans cette partie d'Europe une économie extraordinairement gaspilleuse d'énergie fossile qui a disparu dans les années 90 parce que la transition vers l'économie de marché a fait disparaître toute cette industrie lourde des pays de l'Est et de la Russie. Et donc, c'est grâce à cette disparition de l'industrie soviétique que la réduction a été si forte en Allemagne, puisque c'est l'Allemagne de l'Est, dans les pays d'Europe centrale et orientale et en Russie. Et donc, si on enlève ces pays-là, eh ben, dans le reste de l'Europe, on n'a pas fait beaucoup, beaucoup de progrès en matière de réduction, en fait. Et c'est ça qui est problématique. On va revenir dessus. Alors, si on regarde, voilà, vous avez ici un graphique qui vous donne les émissions des différentes régions. Donc, vous voyez que l'Union à 25 fait bien ce qui était l'engagement, c'est-à-dire, bon, en gros, moins 8, hein, un peu moins pour l'instant, mais ça devrait atteindre moins 8. Mais quand on regarde les autres régions, bon, les États-Unis, c'est une catastrophe. Le Japon, c'est guère mieux. Et depuis Fukushima, c'est même plutôt pire. Et puis, l'Union à 15, c'est-à-dire si on exclut les nouveaux membres, ceux d'Europe centrale et orientale, ben, c'est beaucoup moins bien aussi. Alors, je vais en quelques mots résumer le cadre analytique que j'utilise. Et évidemment, on peut dire que cette question climatique, elle combine finalement toutes les difficultés que l'analyse économique a regroupées, justement, comme je le disais tout à l'heure, sous le terme de défaillance de marché, c'est-à-dire des cas dans lesquels les marchés, l'économie de marché ne fonctionne pas bien, ou plutôt elle fonctionne, elle envoie des mauvais signaux. Alors, la première, c'est que le climat, c'est ce qu'on appelle parfois un bien public, ou plutôt un bien collectif ou un bien commun mondial. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, ça affecte toute l'humanité, mais de manière différenciée, d'une part. Et si on en croit donc, ce qui nous est dit par les scientifiques sur les effets de serre, eh bien, tous les humains participent au changement du climat, mais ils n'en subissent pas tous les mêmes conséquences. C'est-à-dire que bon, s'il y a une sécheresse aux États-Unis qui est la conséquence des émissions de la Chine, ce ne sont pas ceux qui... Oui, non, mais je caricature, là. Mais ce ne sont pas ceux qui émettent qui subissent. Hein. Donc, il y a un problème, disons, de ce qu'on appelle le coût social qui est différent du coût privé. Très schématiquement, ce que dit l'analyse économique depuis un économiste qui est cher à mon cœur, mais dont on ne parle pas souvent, qui est Pigou, ce que dit... ça fait sourire Pascal, parce que c'est vrai que ce pauvre Pigou a eu la malchance de vivre en même temps que Keynes, et il a dit sur Keynes des choses qui n'étaient pas très aimables, et du coup, ça lui est resté collé à la peau comme un sparadrap à la chaussure. Alors qu'il valait mieux que ça. Il a fait aussi des choses très intelligentes. C'était, disons, peut-être pas le meilleur macroéconomiste de sa génération, mais c'était sans doute le meilleur microéconomiste de sa génération. Et ça, on l'a un peu oublié. Et il a écrit en 1920 un livre absolument prophétique qui s'appelle « L'économie du bien-être ». C'est quand même intéressant de voir qu'en 1920, un économiste britannique publie un livre qui s'appelle « L'économie du bien-être ». Aujourd'hui, évidemment, ça paraît un peu banal, mais à l'époque, il fallait oser quand même. Et ce qu'il dit dans ce livre, qui est très important, c'est que justement, dans toutes ces situations où on a des biens collectifs ou bien où on a ce qu'on appelle des effets externes ou ce qu'on appelle parfois la tragédie des communs, c'est-à-dire toutes ces choses dans lesquelles il y a ce qu'il appelle justement des défaillances de marché, eh bien, on retrouve la même caractéristique dans toutes ces situations, c'est que le coût privé d'une décision diffère du coût social de la même décision. C'est-à-dire, il y a un écart entre ce que celui qui décide supporte comme coût ou bien le bénéfice qu'il en retire et ce que la collectivité supporte comme coût ou du bénéfice qu'elle retire de cette même action. Et c'est ce problème qu'un autre économiste prix Nobel, lui, qui est Ronald Coase, a dans un article appelé, le titre de l'article, c'est « Le problème du coût social », hein, qu'il a publié en 1960. C'est ce problème-là qu'on va essayer de résoudre. Le coût social n'est pas le même que le coût privé, et donc le marché aboutit à un équilibre qui n'est pas collectivement souhaitable. Même si individuellement, tout le monde est content, mais collectivement, l'équilibre de marché n'est pas le bon. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une défaillance de marché. Alors, dans tous ces problèmes-là, au fond, on se dit, il faut qu'il y ait une intervention publique. C'est ce que nous dit, Pigou. Pigou, qui était pourtant un libéral, Dieu sait. Pigou dit, dans ces cas-là, il faut que les autorités publiques interviennent pour remédier aux défaillances de marché. Et encore une fois, il ne s'agit pas de supprimer les marchés, au contraire, on va le voir. C'est plutôt réparer des marchés qui fonctionnent mal. Alors, quels sont les instruments? Et là, j'ai mis trois instruments, mais il y en a un quatrième quand même qui est important, même si ce n'est pas un instrument, disons, qui relève des économistes, mais parlons-en quand même. C'est l'information. L'information, c'est évidemment très important. Si les gens... la première chose, c'est qu'il faut que les gens soient informés. Si les gens ne sont pas informés, évidemment, on ne peut pas espérer qu'ils prennent des bonnes décisions. Donc, qu'il y ait de l'information, c'est vraiment une condition prioritaire. Après, ne serait-ce aussi que pour qu'il se forme un consensus politique sur les décisions qu'on doit prendre, ce qui est déjà compliqué. Donc, ça, c'est le prérequis, si je puis dire. Après, les trois grandes catégories d'instruments que peuvent mobiliser les pouvoirs publics, le premier, c'est la réglementation et les normes techniques. Celui-là, finalement, c'est celui avec lequel les politiques sont généralement les plus familiers, c'est celui avec lequel ils se sentent le plus à l'aise, c'est celui que les citoyens comprennent le mieux aussi. Et donc, c'est l'idée que s'il y a quelque chose de nuisible, il faut soit l'interdire, soit limiter. Donc, on interdit le bisphénol A, on interdit l'amiante, etc., parce que c'est dangereux. Voilà. Donc là, ça paraît simple. Et là où les citoyens et les politiques se sentent à l'aise avec ce genre d'instrument, c'est que ça a l'air déjà de s'adresser directement au problème. Donc on se dit, si un truc n'est pas bon, on l'interdit et c'est bien. Et c'est surtout que ça n'a pas l'air coûteux. Or, en fait, évidemment, c'est très coûteux. Évidemment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réglementation, c'est ce qu'il y a de plus coûteux, en fait. Puisqu'on ne tient pas compte de est-ce que c'est difficile ou pas difficile de se passer de ça? Est-ce que ça coûte cher ou pas cher de se passer de ça? Est-ce qu'il y a des technologies qui permettent de substituer autre chose à ça? Donc, la réglementation, c'est un peu brutal, c'est très coûteux la plupart du temps, ça peut être efficace, mais le coût est largement caché. Deuxième problème avec la réglementation, c'est que souvent, ça a des effets pervers qu'on ne soupçonne pas quand on met en place la réglementation. Et je vais vous donner un exemple très simple qui concerne justement les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Jevons est aussi un économiste un peu méconnu du 19e siècle, pas si méconnu que ça, mais enfin, disons qu'il ne fait pas partie de ceux qu'on lit tous les matins dans les facs d'économie aujourd'hui. Vous me direz, il n'y en a pas beaucoup parmi les vieux qu'on lit tous les matins dans les facs d'économie. Maintenant, tout ce qui a plus de 10 ans est considéré comme complètement dépassé, donc on ne lit plus ces gens-là. On a tort, parce qu'ils ont eu des idées quand même. Et des intuitions. Et Jevons, justement, une de ses préoccupations qui était tout à fait essentielle à l'époque, c'est que lui, il vivait au milieu du 19e siècle, donc en pleine prospérité britannique, sous la reine Victoria. Et la prospérité britannique, il avait bien compris qu'elle reposait énormément sur le charbon, sur le fait que le charbon était abondant et assez bon marché en Angleterre. Il se préoccupait justement de ce qui allait se passer quand le charbon serait épuisé. C'est-à-dire, il s'est dit, mais alors, quand on n'aura plus de charbon en Angleterre, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, il a écrit tout un livre très intéressant sur cette question, ce qu'il a appelé justement la question du charbon. Quel est l'avenir, quoi. Et il a plein d'intuitions là-dedans. Mais une des choses qu'il développe là-dedans et qui nous intéresse particulièrement est la chose suivante. Il dit, on pourrait évidemment mettre en place des réglementations pour réduire l'utilisation du charbon, pour faire en sorte que les gens en consomment moins. Mais ça ne va pas marcher. Alors, je transpose ça dans le cas des émissions de gaz à effet de serre des automobiles. Vous savez tous qu'aujourd'hui, En Europe et en France, on a un bonus-malus qui est fondé complètement là-dessus pour les voitures. On a une norme qui est 135 grammes de CO2 par kilomètre. Et on incite les constructeurs à mettre sur le marché des voitures qui émettent moins de 135 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Et donc on se dit, ben voilà, c'est bien, on a là une norme qui va être bonne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est exactement le contraire qui se passe. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que la manière dont les constructeurs réussissent à réduire les émissions de leurs voitures, c'est très simple, c'est en réduisant la consommation. C'est parce que les voitures consomment moins qu'elles émettent moins. C'est pas parce qu'on a fait des innovations technologiques de je ne sais pas quoi. C'est juste qu'elles consomment moins par kilomètre. Donc elles émettent moins de CO2 par kilomètre. Mais du coup, ça coûte moins cher par kilomètre parcouru pour le consommateur. Et du coup, comme le coût au kilomètre baisse, eh bien, les gens font plus de kilomètres. Et donc, en tout, on émet plus. Et donc là, on voit que si on n'a pas le bon signal de prix, on va pas émettre, la réglementation ne va pas aboutir au résultat choisi, mais le contraire. C'est-à-dire, on va non pas émettre moins en tout, mais émettre plus parce que, bien qu'on émette moins par kilomètre, comme on roule de plus en plus, puisque ça coûte moins cher, eh bien, on émet plus en tout. Et on va voir que c'est tout à fait vrai. Et vous allez voir que sur le prix de l'essence, je vais vous montrer des choses qui vont vous surprendre. Continuons. Donc, cette première catégorie d'instruments, les réglementations, les normes techniques, etc., c'est bien, mais ça ne peut pas marcher tout seul. Deuxième catégorie, donc, c'est ce qu'on appelle les instruments pigouviens. C'est la fiscalité, c'est là-dessus que je vais venir tout à l'heure. Là, l'idée est très simple, c'est de dire, ben voilà, les prix de marché ne sont pas les bons quand il y a des défaillances de marché. Avec la fiscalité ou avec des subventions, c'est le principe bonus-malus ou le principe pollueur-payeur. Grâce à la fiscalité ou à des subventions, selon qu'il y a une défaillance positive ou négative, on va pouvoir corriger les prix de marché et donc envoyer les bons signaux. Toutes les choses qui sont nuisibles collectivement, on va leur mettre des taxes. Toutes les choses qui sont utiles collectivement, on va leur mettre des subventions. Ça va corriger les signaux de marché. Et donc, ceux qui pensent que la fiscalité écologique, c'est une espèce de bolchevisme rampant, ils ont tort, évidemment, puisque c'est le contraire. Hein. On s'appuie sur les marchés, justement. C'est pour pouvoir faire mieux fonctionner les marchés qu'on utilise la fiscalité. Bon. Et donc, c'est là-dessus que je vais revenir tout à l'heure. Et puis, la troisième solution, c'est la solution Coasienne. Coase, c'est donc l'économiste dont je vous parlais tout à l'heure, qui a, en 1960, publié son article, qui était une critique de Pigou. Hein. Coase est un économiste libéral et Coase n'aime pas les taxes, comme tous les économistes libéraux. Et donc, Coase dit, mais il y a d'autres manières d'arriver au même résultat et de corriger le coût social, le coût privé, pardon, pour le rapprocher du coût social. Coase dit, l'autre manière de faire, c'est de jouer sur les droits de propriété et notamment de créer des marchés. Et c'est ce qu'a fait l'Union européenne, et on va le voir dans un instant. L'Union européenne, finalement, c'est cet instrument-là qu'elle a privilégié, c'est la création d'un marché du carbone, pour avoir un prix sur le carbone. Alors, le problème, c'est qu'on va voir que ce marché marche très mal. Mais juste un petit point d'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette solution-là? On pourrait dire, bah, d'abord, pour des raisons idéologiques, il y a en Europe une majorité de gouvernements qui n'aiment pas les taxes. Ce n'est pas le nôtre, comme vous l'avez remarqué, mais il y en a pas mal d'autres dans pas mal d'autres pays qui n'aiment pas les taxes. Donc, il y a des raisons, disons, de position de principe. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'en fait, quand on est allé à Kyoto pour négocier notre protocole avec les autres pays, en fait, l'Union européenne y allait avec une proposition de taxe carbone, sur laquelle je reviendrai à la fin. Et les États-Unis, eux, voulaient un marché. Et ils voulaient un marché tout simplement parce que, d'abord pour des raisons idéologiques aussi, mais aussi parce que depuis la fin des années 70, aux États-Unis, fonctionne un marché similaire, non pas sur le gaz carbonique, mais sur le SO2, le dioxyde de soufre, qui est donc un rejet toxique de certaines industries, d'industries lourdes hein, en général. Et le SO2, c'est le gaz qui est à l'origine, donc c'est le soufre, c'est le gaz qui est à l'origine de ce qu'on appelle les pluies acides. les plus acides, qui sont donc qui étaient un des gros fléaux environnementaux d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Est dans les années 70-80, et qui ont presque disparu, il faut bien le dire, parce que justement, aux États-Unis et au Canada, on a mis en place ce système de marché pour les quotas d'émissions de SO2, dioxyde de soufre, et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, et donc les Américains se sont dit, ben, puisque ça a marché pour le dioxyde de soufre, on voudrait que la même chose soit mise en place pour le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le gaz carbonique. Bon. Alors, à Kyoto, comme vous le savez, pour faire plaisir aux Américains, l'Union européenne a fini par dire, OK, on prend le marché, on ne va pas chercher à imposer notre système à nous, on est d'accord pour créer un marché du carbone. Les Américains ont dit super, ils sont rentrés chez eux, puis ils n'ont pas ratifié Kyoto. Donc on s'est retrouvés comme des imbéciles avec l'instrument qu'on ne voulait pas et qu'on a adopté juste pour les inciter à adopter le compromis. Puis finalement, ils n'ont pas ratifié le compromis. Donc c'est nous qui nous retrouvons avec cet instrument. Et depuis, alors on a une espèce de, on va dire, c'est comme souvent en matière de politique, on est devenu... accro au marché, c'est-à-dire la Commission européenne pense que c'est la solution à tous nos problèmes, et on va voir que ce marché, malheureusement, dysfonctionne complètement dans l'Union européenne, mais que, pour l'instant, en tout cas, la Commission et les gouvernements ne veulent pas. Bon, ça, j'y reviendrai à la fin, donc je passe là-dessus. Donc ça, c'est quelques références bibliographiques, mais